L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté en fait, ou le rêve? Voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient, on disait viens.
On va arriver au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le MAG à 12h et 17h.
Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter la double exposition d'été Sonnant et Trébuchant, visible à l'Atelier Blanc et au Moulin des Arts de Saint-Rémy jusqu'au 24 septembre. Sonnant et Trébuchant est la seconde exposition proposée par l'Atelier Blanc autour de la thématique de l'argent. Ce second volet est constitué de pièces mises à disposition par les abattoirs et font partie de la collection du FRAC Occitanie-Toulouse. L'exposition a été pensée autour de 11 artistes qui se divisent entre le Moulin des Arts et l'Atelier Blanc. Quand vous viendrez nous visiter, on en est sûr, vous pourrez trouver Stéphane Calais, Sophie Dubosc, Étienne Hajdoux, Présence Panchounette, Tracé Heming et Claude Viseux. Aujourd'hui, Bénédicte et moi-même, Florence, médiatrice à l'Atelier Blanc et au Moulin des Arts, allons nous arrêter plus particulièrement sur deux œuvres. Pour commencer, Stéphane Calais avec Le chien, l'or et les oiseaux, devant lequel nous sommes actuellement. Donc c'est deux chiens fous qui remontent en fait, quand on connaît un peu l'histoire de la Chine, à la période Han, donc culture ancestrale, et qui sont un mix, on peut dire, entre le chien et le lion.
Ces deux grandes statues qui sont de part et d'autre disposées comme une entrée, comme si on était accueilli devant un palais imaginaire ou je ne sais quel édifice, mais en tout cas qui ouvre un chemin, un passage, quelque chose. Et on a deux énormes chiens, lions, bêtes étranges, voire mythologiques, qui sont assez grandes parce que, bon, certes, je ne suis pas grande moi-même, mais du haut de mes 1m60, ils doivent bien m'arriver quasiment à l'épaule.
Mmh, facilement.
Donc ça vous donne un peu une idée de l'ampleur de ces statues qui sont tout de même assez impressionnantes, toutes dorées.
Absolument, et on doit dire que ces deux chiens fous sont eux-mêmes posés sur deux socles, où l'on retrouve un peu les décorations typiques chinoises. Et Bénédicte disait tout à l'heure qu'il y a quelque chose d'un peu fastueux aussi là-dedans. Généralement, ces deux chiens fous, qui sont mâles et femelles, toujours présentés en couple, sont présents devant les portes des temples ou des maisons d'empereurs à l'époque, ou du moins de gens qui avaient une stature sociale. Et ils étaient à l'entrée des maisons pour servir de protection. Quand on passait entre, c'est comme s'ils nous volaient toutes les mauvaises énergies et protégeaient la maison. Donc, sur la gauche, il y a le mâle. On le distingue parce que sous la patte gauche, il y a le globe terrestre. En fait, c'est la suprématie, l'image de la suprématie et du pouvoir. Et à droite, il y a la femelle qui, elle, va mettre la main, la patte plutôt, sur son petit, qui est sur le dos, plutôt enjoué. Et donc, c'est la protection et l'éducation. Donc, ils sont toujours présentés en couple. Ces pièces-là, elles existent. Ce ne sont que des duplications. À l'origine, c'était du bronze, ça a été de la pierre également. Mais pour pouvoir l'ouvrir et en faire bénéficier le plus grand nombre, avec le temps, ça a été des moulages en série et en résine. Donc là, on peut penser que Stéphane Calais a acheté des pièces usinées, une série X parmi des très très grandes séries. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait intervenir des dessinateurs, des peintres, où il a, à la manière de tatouage et à l'aérographe, fait dessiner et peindre des oiseaux sur le corps des deux sculptures.
L'ensemble est effectivement doré. Par contre, ces oiseaux qui sont tous très différents, on a des perroquets, des sortes de...
peut-être
des passereaux, peut-être une grive ou quelque chose comme ça. Ils sont tous de couleurs, sont très colorés. On a du vert, du jaune, du rouge, du bleu. Et ils couvrent, ils sont essaimés entre le socle et aussi sur les chiens eux-mêmes.
Après, ce qui est, quand on regarde bien, quand on les éprouve tous les jours, on peut remarquer, regarde, sur le mâle, les couleurs restent froides, on est dans les bleus, dans les verts, alors que sur la femelle, on a du vert, du rouge, de l'orangé, du jaune. Donc là, il y a une petite différence entre eux dans le traitement. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'approche de Stéphane Calais et la manière dont il a effectivement disséminé les motifs, c'est qu'il s'est vraiment servi du relief. On disait tout à l'heure, ça faisait penser à l'approche dans les grottes, au paléolithique, où on allait se servir des fissures, des reliefs pour donner corps et donner du volume au dessin. Donc là, on est vraiment dans ce cas dans le même cas de figure. Après, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi les oiseaux ? Et en réfléchissant un petit peu sur le rapport de l'oiseau et des Chinois, c'est que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, dans leur maison, ce qu'ils avaient, comme nous, on a chien et chat, ils avaient des oiseaux, pour la joie de les écouter chanter. Ils les promenaient comme on va promener son chien, mis à part qu'ils les promenaient dans des cages, se retrouvaient dans des parcs pour faire... des concours de chant, et puis faire profiter au plus grand nombre. Donc voilà, l'oiseau a quand même une signification, mis à part le paradoxe qu'il y a entre ces bêtes, entre le chien et le lion, comme on le disait tout à l'heure, qui sont un peu effrayants, et la douceur de ces oiseaux dans le traitement. Oui, complètement. Et donc vêtus de cette douceur-là, de cet exotisme. Donc il y a quand même un lien qui peut se faire. Ce n'est pas un pur acte de décoration. Il y a quand même un lien dans la culture.
Une dimension aussi spirituelle ou sacrée.
Il y en a une, comme toute la symbolique chinoise, où là on est dans la protection, on est dans la suprématie au monde, dans le pouvoir. L'oiseau, après, ça peut être... Après, c'est pas l'oiseau en général, ils sont généralement très dédiés. Ça peut être la féminité, ça peut être la spiritualité, effectivement. Donc il y a différentes approches. Mais dans mes recherches, effectivement, j'ai pas trouvé d'oiseau, parce que je me suis demandé pourquoi le perroquet, pourquoi, mis à part le côté exotique qui est basculé quand on retrouve les passereaux. Donc voilà, il y a peut-être un choix qui est aussi un peu aléatoire, ou simplement par goût. Cela est possible. Après, dans l'approche de Stéphane Calais, ce qui est intéressant, c'est que lui, son fil conducteur, ça a toujours été le dessin. Donc généralement, il fait des grandes installations in situ, où cette trace du dessin est présente constamment. Et là, on se retrouve face à deux sculptures, ce qui est très très rare dans son travail. C'est intéressant aussi de voir ces deux entités, toutes seules, qui prennent de ce fait une autre dimension. Et aussi de voir qu'il y a des temps comme ça qui viennent se superposer. On est à la fois dans cette culture ancestrale, puisqu'on parlait tout à l'heure de la période Han, qui remonte quand même à fort fort longtemps, avec cette espèce de culture de fête foraine, avec ces dessins à l'aérographe qu'on pouvait retrouver quand on était gamin, sur les autotamponneuses, sur les petits avions, sur les histoires avec les pompons, tout ça. Donc il y a vraiment deux rencontres qui se font de deux mondes. Et Stéphane Calais...
Et qui plus est au bord de l'Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue.
Voilà, de plus est à cet endroit-là. Et donc Stéphane Calais s'amuse dans son travail à faire se rencontrer autant des temps différents, des médiums différents, des techniques différentes. C'est-à-dire qu'il nous perd constamment. Il n'y a pas une reconnaissance comme il y a des artistes où il y a vraiment une facture. Stéphane Calais va nous balader à chaque fois dans des mondes totalement épars, parce que c'est autant le rock'n'roll, c'est autant la bande dessinée, des mondes à chaque fois qui viennent se nourrir les uns les autres. Après, c'est vrai qu'on peut retrouver de temps en temps sa passion pour les bestiaires et sa passion pour le portrait. Donc des choses qui viennent se glisser, mais assez vite, qui viennent s'étirer, se glisser, se nourrir d'autres choses. Donc qui viennent fournir un petit décalage. Voilà pour les chiens fous.
De la Chine, on peut aller peut-être un peu plus vers le Mexique. Pour cela, il nous faut changer de salle. Donc sachez qu'à l'étage de l'Atelier Blanc à Villefranche, sont exposées d'autres œuvres. On a Étienne Hajdou, on a donc Claude Viseux, Présence Panchounette et Sophie Dubosc, évidemment qu'on vous laissera le plaisir de découvrir par vous-même. Et là, tout de suite, on va descendre dans la première salle en dessous pour découvrir donc une vidéo de Tracy Emin.
Alors, en se dirigeant vers le rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc, je pense que peut-être, si le son est assez fort, vous pouvez déjà entendre la bande sonore du Bon, de la Brute et du Truand. Une bande sonore et un film mythique que tout le monde a vu une ou plusieurs fois d'ailleurs. Donc là, on est en train de traverser le jardin pour se rendre au rez-de-chaussée. Et là, voilà, vous rentrez directement dans le vif du sujet. Avec la bande son connue, comme je disais tout à l'heure, d'Enzo Morricone sur le film de du Bon, de la Brute et du Truand. Alors là, comme le disait Bénédicte à l'instant, c'est une vidéo de Tracy Emin, dont le titre en anglais est Sometimes the dress is worth more money than the money. Donc c'est quelquefois la robe vaut plus cher que l'argent. Et en fait, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est Tracy Emin elle-même, hein, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur l'autoportrait et se nourrissant de ce qui lui arrivait dans sa vie propre. Donc ce qu'elle dit, c'est que sa vie et son œuvre ne font qu'un. C'est souvent, très souvent autobiographique. Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans un pseudo-désert mexicain, complètement vidée de toute présence humaine, on voit une jeune femme avec une jolie robe de mariée sur laquelle sont posés des billets qui font référence à la danse de l'argent quand on se marie d'ailleurs. Et donc, paysage désertique et cette femme qui court. En ayant, je pense quand même, quand on la voit, on peut deviner que quelqu'un potentiellement peut la suivre, qu'elle est poursuivie par quelque chose. En fait, ce film est quand même posé sur un grand paradoxe, parce qu'elle est avec sa jolie robe rose de mariée, ses billets dessus, ses petites chaussures immaculées blanches. Et normalement, on pourrait se dire qu'elle devrait, normalement, être accompagnée de son mari tout récent, être entourée et aimée. Et là, elle se retrouve en plein désert, avec des charognes, avec un soleil qui a l'air tout à fait brûlant, des maisons totalement désertées et en ruine.
On a quelque chose de très dramatique qui peut être assez oppressant, d'autant qu'on ne sait pas bien si on a les codes de la fiction, mais enfin, on est hors récit, hors narration. Et du coup, on est juste dans un espace-temps assez réduit où du coup, c'est l'imaginaire qui va, notre imaginaire qui va peut-être lancer un tas d'hypothèses. Donc c'est assez angoissant et en même temps, tous les éléments réunis, cette robe donc un peu rose bonbon qui plus est, soyeuse, ces guirlandes de billets qui sont accrochées à sa... Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, je sais pas vous, mais d'avoir autant de billets accrochés à ma robe.
Il faut que tu te maries, Bénédicte, voilà, pour connaître ça.
Alors, dans le désert mexicain, je sais pas si c'est ce dont je rêve, mais voilà. Plus, donc, cette musique que vous avez entendue au début, on peut pas ne pas penser à une certaine culture du cinéma.
On est plongé dans le western spaghetti, là avec Sergio Leone. Mais rappelle-toi, si tu as ce film en tête, il correspond à un moment très particulier où Clint Eastwood, donc le bon, après plusieurs épisodes où il va ramener le truand chez le shérif, rempocher la monnaie, le libère et réitère cette action pour se faire de plus en plus d'argent, ensemble, va abandonner le truand en plein désert avec sa bourse d'argent, sans eau, sans nourriture, et on se retrouve quasiment à ce moment-là de cette vidéo. Donc il y a un petit pont qui se fait entre la fiction du film et le moment choisi par Tracy Emin. Après, ce qui est assez drôle dans la lecture, c'est que tout d'un coup aussi, on voit une bête, qui est un mouton, une chèvre, on ne sait pas trop, avec un bout de corde accroché, donc on peut penser qu'elle s'est échappée. Et on peut se dire aussi, ça fait un peu penser quelque part à la chèvre de Monsieur Seguin qui se libère, s'échappe et se fait dévorer. Donc là aussi, ça nous parle de liberté. Quand même, Tracy Emin, dans son travail, pose l'accent très fort sur le fait... Elle est très féministe.
Oui,
sur
parce que là, on est vraiment dans la femme et le sujet principal, c'est vraiment... C'est elle, mais c'est une femme, à part entière.
Voilà, donc elle a souvent posé l'accent là-dessus. Donc il y a des petites choses aussi symboliques entre le passage des oiseaux dans le ciel, la liberté, cette bête morte avec cette corde accrochée au cou. Après, ce qui est intéressant aussi quand on voit le déroulement de cette petite fiction, c'est que donc elle traverse le désert où elle va jeter sa fleur, renoncement, elle reprend sa liberté. Et quelque part, c'est parce que ce que disait Bénédicte aussi tout à l'heure, c'est qu'on est dans cet espace, on n'en connaît pas le temps, on ne sait pas, on peut deviner éventuellement où est-ce qu'on se trouve géographiquement, mais question de temps, à quelle époque, et tout d'un coup, on sort de ce désert et on voit des petites voitures passer. On sort du western, voilà, on a une ville qui se devine avec des voitures. On n'est pas dans une filmographie avec une fiction vraiment donnée. Elle joue comme ça d'un paysage, d'un instant, sans se soucier de la véracité.
Un bon moment à passer.
En tout cas, se questionner, parce qu'il y a plein de questions et plein de positions, d'endroits où regarder ce film. Effectivement, il y a le côté effectivement très féministe, il y a la notion du couple, il y a plein de choses, et aussi la notion de l'argent, forcément. Nous vous invitons très grandement à venir à l'Atelier Blanc pour voir ce premier volet, avant de partir au Moulin des Arts pour voir la suite. Donc, nous vous souhaitons une très jolie journée En espérant vous voir très bientôt.
L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche de Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté en fait, ou le rêve, voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient, on disait viens.
On va arriver au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le mag à 12h et 17h.